Droits de l'homme, en réponse à l'attaque de M. Burke sur la Révolution française, par Thomas Paine, secrétaire du Congrès pour le département des affaires étrangères pendant la guerre de l'Amérique et auteur de l'ouvrage intitulé « Le sens commun », traduit de l'anglais par François Soulès, avec des notes et une nouvelle préface de l'auteur. À Paris, chez F. Buisson, imprimeur libraire, mai 1791. À George Washington, président des États-Unis de l'Amérique. Monsieur, je vous présente un petit traité pour la défense de ces principes de liberté que votre vertu exemplaire a si éminemment contribué à établir. Puissent les droits de l'homme devenir aussi universellement connus que votre bienveillance le désire, et puissiez-vous avoir le bonheur de voir le nouveau monde régénérer l'ancien. C'est le souhait, monsieur, de votre très obligé et très obéissant serviteur, Thomas Paine. Préface de l'auteur pour l'édition française. L'étonnement que la Révolution française a causé dans toute l'Europe doit être considéré sous deux points de vue différents. D'abord, en tant que cette révolution affecte les habitants des pays étrangers. Secondement, en tant qu'elle affecte les gouvernements de ces mêmes pays. La cause du peuple français est celle de toute l'Europe, ou plutôt celle du monde entier, mais les gouvernements de tous les pays ne lui sont aucunement favorables. Il est à propos de ne jamais perdre de vue cette distinction. Il ne faut point confondre les peuples avec leurs gouvernements, et particulièrement le peuple anglais avec son gouvernement. Le gouvernement d'Angleterre n'est pas ami de la Révolution de France. Nous en avons des preuves suffisantes dans les remerciements que l'électeur d'Hanovre, ou, comme on l'appelle quelquefois, le roi d'Angleterre, homme faible et sans esprit, a fait à M. Burke pour les injures dont il l'avait accablé dans son ouvrage et dans les réflexions malveillantes du ministre anglais, M. Pitt, dans ses discours au Parlement. Quoique le gouvernement anglais, dans sa correspondance officielle avec celui de France, fasse profession de l'amitié la plus sincère, sa conduite dément toutes ses déclarations et nous fait voir que ce n'est pas une cour à laquelle on puisse se fier, mais une cour en démence qui se plonge dans toutes les querelles et toutes les intrigues de l'Europe, cherchant la guerre pour satisfaire sa folie et favoriser son extravagance. Quant à la nation anglaise, au contraire, elle a des dispositions très favorables à la Révolution française et au progrès de la liberté dans l'univers entier. Et ces dispositions deviendront plus générales en Angleterre à mesure que les intrigues et les artifices de son gouvernement se découvriront et que les principes de la Révolution française seront mieux entendus. Il faut que les Français sachent que la plupart des papiers nouvelles anglais sont directement à la solde du gouvernement ou si indirectement liés avec lui qu'ils sont toujours à ses ordres, et que ces papiers nouvelles défigurent et attaquent constamment la Révolution de France afin de tromper la nation. Mais comme il est impossible d'empêcher constamment les opérations de la vérité, les faussetés que contiennent journellement ces papiers ne produisent plus les effets désirés. Pour convaincre l'univers que la voie de la vérité a été étouffée en Angleterre, il ne faut que l'instruire que le gouvernement anglais la regarde et la poursuit comme un libelle, lui qui devrait en être le protecteur. Cet outrage à la morale a été appelé loi, et il s'est trouvé des juges assez scélérats pour la faire punir. Le gouvernement anglais nous offre maintenant un phénomène curieux. Voyant que les nations françaises et anglaises se défont de ces préjugés et de ces notions fausses dont elles étaient autrefois imbues l'une contre l'autre, et qui leur ont coûté des sommes si considérables, il semble à présent afficher qu'il a besoin d'un ennemi. Car à moins qu'il n'en trouve un quelque part, il n'a plus de prétexte pour le revenu et les impôts excessifs qui lui sont actuellement nécessaires. Il cherche donc en Russie l'ennemi qu'il a perdu en France, et paraît dire à l'univers, ou se dire à lui-même, « Si personne ne veut avoir la complaisance de devenir mon ennemi, je n'aurai plus besoin de flotte ni d'armée, et je serai forcé de diminuer mes taxes. La guerre de l'Amérique m'a mis à même de doubler les impôts. L'affaire d'Hollande d'y ajouter quelque chose, la niaiserie de Nootka m'a fourni un prétexte de lever plus de 3 millions sterling. mais à moins que je me fasse un ennemi de la Russie, la moisson des guerres sera terminée. C'est moi qui ai d'abord excité les Turcs contre les Russes, et maintenant j'espère recueillir une nouvelle récolte de taxes. Si les misères de la guerre et le déluge de maux qu'elle répand sur un pays, n'arrêtez point le désir de plaisanter, et ne changez pas l'envie de rire en douleur, la conduite frénétique du gouvernement d'Angleterre n'exciterait que le ridicule. Mais il est impossible de bannir de son esprit les images de misère que la contemplation d'une politique si vicieuse présente. Raisonner avec les gouvernements, tels qu'ils existent depuis des siècles, c'est raisonner avec des brutes. Et ce n'est que des nations seules qu'il faut attendre des réformes. Il ne doit plus maintenant exister de doute que les peuples de France, d'Angleterre et d'Amérique, éclairés et s'éclairant l'un l'autre, ne puissent non seulement donner au monde entier l'exemple d'un bon gouvernement, mais même par leur influence réunie, en faire admettre la pratique. Thomas Paine. Droits de l'homme, en réponse à l'attaque de M. Bach sur la Révolution française. De tous les exemples d'indécence et de malhonnêteté par lesquels les nations se provoquent et s'irritent mutuellement les unes contre les autres, il ne s'en trouve guère de plus extraordinaire que l'ouvrage de M. Bach sur la Révolution de France. Le peuple français, non plus que l'Assemblée nationale, ne se mêlait aucunement des affaires de l'Angleterre ni de celles de son Parlement. C'est pourquoi la conduite de M. Bach, en les attaquant en public et au Parlement, ne peut se justifier ni du côté de l'honnêteté ni de celui de la politique. Il n'y a point d'épithète injurieuse que M. Bach n'ait vomi contre la nation française et contre l'Assemblée nationale. Tout ce que la colère, le préjugé, l'ignorance ou la science est capable de suggérer se répand avec la violence d'un torrent dans un volume de près de 400 pages. En suivant le style et le plan qu'il avait adopté, il aurait été facile à M. Bach d'en écrire 4000. Lorsque l'orateur ou l'écrivain se laisse entraîner par la passion, ce n'est point le sujet, mais l'homme qui s'épuise. Jusqu'ici, M. Bach s'est toujours trompé dans ses opinions sur les affaires de France. Mais telle est la fermeté de ses espérances ou la malignité de son désespoir qu'elle lui fournit toujours de nouveaux prétextes pour continuer. Il fut un temps où M. Bach ne pouvait pas croire à une révolution en France. Suivant lui, les Français n'avaient ni le courage de l'entreprendre, ni la constance de la soutenir. Aujourd'hui qu'elle existe, M. Bach bat en retraite et la condamne. Peu content de s'en prendre à l'Assemblée nationale de France, il remplit une grande partie de son ouvrage d'invectives contre le docteur Price, l'un des meilleurs hommes du monde, et contre les deux sociétés connues en Angleterre sous les noms de « Société de la Révolution » et de « Société pour des informations constitutionnelles ». Le docteur Price avait fait un sermon le 4 novembre 1789, jour de l'anniversaire de la Révolution qui eut lieu en 1688. M. Bach, en parlant de ce sermon, dit « Le prêtre politique continue en assurant dogmatiquement que par les principes de la Révolution, le peuple anglais a acquis trois droits fondamentaux. Premièrement, celui de choisir ses gouverneurs. Deuxièmement, celui de les emprisonner pour mauvaise conduite. Troisièmement, celui de se faire un gouvernement. » Le docteur Price ne dit pas que tel individu ou telle classe d'individus ait un pareil droit, mais que c'est le droit de tous les individus qui composent la société. En un mot, le droit de la nation entière. M. Bach, au contraire, nie que la nation entière ou une partie de la nation ait aucun droit de cette nature ou que ce droit existe quelque part. Mais ce qui est bien plus singulier et plus étonnant, c'est qu'ils disent que le peuple anglais désavoue entièrement un pareil droit et qu'il est prêt à sacrifier sa fortune et sa vie pour empêcher qu'une pareille assertion ne soit mise en pratique. Voir des hommes prendre les armes et sacrifier leur fortune et leur vie non pas pour maintenir leurs droits, mais pour soutenir qu'ils n'ont aucun droit, est une espèce de découverte tout à fait nouvelle et analogue au génie sophistique de M. Bach. La méthode dont se sert M. Bach pour prouver que le peuple anglais n'a point de pareil droit et que de pareil droit n'existe ni dans la nation entière, ni dans aucune partie de la nation, est d'une nature aussi étrange et aussi monstrueuse que ce qu'il a déjà avancé. car il fonde son raisonnement sur ce que les individus ou la génération d'individus qui avaient ces droits sont morts et assure que les droits sont morts avec eux. Pour prouver cette assertion, il cite une déclaration faite par le Parlement, il y a environ 100 ans, à Guillaume et à Marie, en ces mots. Les pères spirituels et temporels et les communes, au nom du peuple ci-dessus mentionné, c'est-à-dire du peuple anglais alors existant, se soumettent humblement et fidèlement, ainsi que leurs héritiers et leur postérité, pour toujours. Il cite aussi une clause d'un autre acte de parlement du même règne, dont les expressions « nous lie », c'est-à-dire les Anglais de ce temps-là, « nous, nos héritiers et notre postérité, à eux, à leurs héritiers et à leur postérité, jusqu'à la consommation des siècles ». M. Banks imagine que sa proposition est parfaitement bien établie en produisant ces clauses qui, soutient-il, aliènent les droits de la nation pour toujours. Peu content de répéter à chaque instant de pareilles assertions, il ajoute que si le peuple anglais possédait de pareils droits avant la Révolution, ce qu'il confesse avoir existé non seulement en Angleterre, mais dans toute l'Europe, dans des temps très éloignés, il les a abdiqués et y a renoncé de la manière la plus solennelle pour lui et pour toute sa postérité au temps de la Révolution. Comme M. Burke se sert selon l'occasion du poison tiré de ces horribles principes, si ce n'est point profaner les mots que de les appeler principes, non seulement contre la nation anglaise, mais même contre la Révolution française et contre l'Assemblée nationale, et honore cet auguste corps d'hommes éclairés de l'épithète d'usurpateur, je vais mettre sans façon un autre système de principes en opposition au sien. Le Parlement d'Angleterre de 1688 fit pour lui et pour ses commettants une chose qu'il avait droit de faire et qu'il paraissait juste de faire. Mais outre le droit qui lui avait été délégué, il s'en arrogea un d'une autre nature, celui de lier sa postérité jusqu'à la consommation des siècles. On peut donc diviser ce sujet en deux parties, savoir le droit qu'il possédait par délégation et le droit qu'il prit lui-même. J'admets le premier. Quant au second, je réponds, il n'y eut, il n'y aura jamais, il est même impossible qu'il existe dans aucun temps ou dans aucun pays, un parlement qui ait le droit de lier la postérité jusqu'à la consommation des siècles, ou de commander de quelle manière le monde doit être gouverné et par qui il sera gouverné jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi toute clause, acte ou déclaration de cette nature, par lesquelles leurs auteurs s'efforcent de faire ce qu'ils n'ont ni le droit ni le pouvoir d'exécuter, sont de toute nullité. Chaque siècle, chaque génération doit avoir la même liberté d'agir, dans tous les cas, que les siècles et les générations qui l'ont précédé. La vanité et la présomption de vouloir gouverner au-delà du tombeau est la plus ridicule et la plus insupportable de toutes les tyrannies. L'homme n'a aucun droit de propriété sur un autre homme, ni les générations actuelles sur les générations futures. Le Parlement ou la nation de 1688 ou d'aucun autre temps n'avait pas plus de droit de disposer de la nation présente ou de la lier d'aucune manière quelconque que le Parlement ou la nation présente n'en a de lier ceux qui doivent exister dans un siècle ou dans 1000 ans. Chaque génération a et doit avoir la compétence d'agir suivant que ses besoins l'exigent. Quand l'homme cesse d'exister, son pouvoir et ses besoins cessent d'exister avec lui, et ne participant plus aux intérêts de ce monde, il n'a plus l'autorité de diriger quels en seront les gouverneurs, ni comment son gouvernement doit être organisé, ou de quelle manière il doit être administré. Je ne combats ni pour ni contre aucune forme de gouvernement, ni pour ni contre aucun parti, soit ici, soit ailleurs. Tout ce que veut une nation entière, elle a le droit de le faire. M. Burke dit que non. Où donc le droit existe-t-il? Je défends les droits des vivants et je m'efforce d'empêcher qu'ils ne soient aliénés, altérés ou diminués par l'autorité usurpée des morts. Et M. Burke prend le parti de l'autorité des morts contre les droits et contre la liberté des vivants. Il fut un temps où les rois disposaient de leur couronne au lit de la mort par le moyen d'un testament et laissaient les peuples comme des troupeaux de bestiaux à celui de leur successeur qu'il leur plaisait de désigner. Cela est tellement ancien qu'on peut à peine s'en rappeler, et tellement abominable qu'on ne le croit pas sans difficulté. Eh bien, les clauses parlementaires sur lesquelles M. Burke pose les bases de sa foi politique sont de la même nature. Les lois des nations sont analogues à un principe commun. En Angleterre, aucun parent, aucun maître, ni même toute l'autorité du Parlement, quoiqu'il se soit appelé tout-puissant, ne peut restreindre la liberté personnelle, même d'un seul individu, au-delà de l'âge de 21 ans. Sur quelle base de droit, donc, le Parlement de 1688, ou tout autre Parlement, pouvait-il lier la postérité pour toujours? Ceux qui ont quitté ce monde, et ceux qui n'existent pas encore, sont à la plus grande distance les uns des autres que l'imagination humaine puisse concevoir. Quelle possibilité d'obligation peut-il donc y avoir entre eux? Quelle règle ou quel principe peut-on poser pour que de deux êtres imaginaires, dont l'un a cessé d'être et l'autre n'existe pas encore, et qui ne peuvent jamais se rencontrer dans ce monde, l'un soit autorisé à maîtriser l'autre jusqu'à la consommation des siècles? On dit en Angleterre qu'on ne peut prendre l'argent du peuple sans son consentement. Qui a donc autorisé, ou qui pouvait autoriser le Parlement de 1688 à priver la postérité de sa liberté et à restreindre son droit d'agir dans certains cas pour toujours, puisque la postérité n'existait pas pour donner ou refuser son consentement? On ne peut présenter à l'entendement humain une plus grande absurdité que ce que M. Burke offre à ses lecteurs. Il leur dit, ainsi qu'à la postérité, qu'une certaine assemblée d'hommes qui existait il y a 100 ans a fait une loi et que la nation n'a pas, n'aura jamais, ne peut même avoir le pouvoir de la changer. Par combien de sophismes et d'arguments subtils n'a-t-on pas fait croire au genre humain que les gouvernements étaient de droit divin? M. Burke vient de trouver une nouvelle méthode, et sans se donner la peine d'aller jusqu'à Rome, il en appelle au pouvoir de ce Parlement infaillible du temps jadis. Et il cite ce qu'il a fait comme de droit divin, car il faut certainement qu'une autorité soit plus qu'humaine pour qu'aucune puissance humaine ne puisse jamais l'altérer. M. Burke a néanmoins rendu quelques services, non pas à sa cause, mais à sa patrie, en mettant ses clauses devant les yeux du public. Elles servent à démontrer combien il est toujours nécessaire de surveiller le pouvoir afin d'empêcher les usurpations et les excès auxquels il est susceptible de se porter. Il est réellement bien extraordinaire que l'offense qui avait fait expulser Jacques II de s'être arrogé un pouvoir qu'il n'avait pas ait été commise sous une autre forme par le Parlement qu'il avait expulsé. Cela prouve que les droits de l'homme étaient mal entendus dans le temps de la Révolution. Car il est certain que le droit que le Parlement avait pris, car il ne pouvait pas lui avoir été délégué, puisque personne n'était en droit de le déléguer, sur les personnes et sur la liberté de la postérité jusqu'à la consommation des siècles, était aussi tyrannique et aussi mal fondé que celui que Jacques avait voulu s'arroger sur le Parlement et sur la nation, et qui avait causé son expulsion. La seule différence est, car dans les principes il n'y en a point, que l'un était un usurpateur des droits des vivants et l'autre des droits des générations à venir. Et comme le droit de l'un n'était pas mieux fondé que celui de l'autre, il s'ensuit que leurs actes sont nuls et ne peuvent avoir aucun effet. Comment M. Burke peut-il prouver qu'aucune puissance humaine ait eu le droit de lier la postérité pour l'éternité? Il a produit ses clauses, mais il faut aussi qu'il produise ses preuves qu'un pareil droit existait et qu'il démontre comment il existait. S'il a jamais existé, il doit encore exister, car l'homme ne saurait anéantir ce qui appartient à la nature de l'homme. Il est de la nature de l'homme de mourir, et il continuera de mourir tant qu'il continuera de naître. Mais M. Burke a créé une espèce d'Adam politique par lequel toute la postérité se trouve à jamais engagée. Il faut donc qu'il prouve que son Adam avait un pareil pouvoir ou un pareil droit. Plus une corde est faible, moins elle est susceptible d'être tendue. C'est donc une mauvaise politique de la tendre, à moins qu'on ait envie de la rompre. Si quelqu'un avait projeté la défaite de M. Burke, il aurait posé les bases de ses arguments comme M. Burke. Il aurait amplifié les autorités, dans le dessein de faire examiner sur quoi elles étaient fondées. Et du moment que la question de droit aurait été agitée, il aurait fallu abandonner les autorités. Il ne faut qu'une très petite portion de jugement pour s'apercevoir que, quoique les lois faites par une génération restent en vigueur pendant plusieurs générations, elles ne continuent d'être en vigueur que du consentement des vivants. Une loi continue donc d'exister, non pas parce qu'elle ne peut être révoquée, mais parce qu'elle n'est pas révoquée. Et ce manque de révocation passe pour un consentement. Mais les clauses de M. Bach n'ont même pas cela en leur faveur. Elles deviennent nulles en voulant être immortelles. Leur nature empêche le consentement. Elles détruisent le droit qu'elles pourraient avoir en le fondant sur un droit qu'elles ne peuvent avoir. Un pouvoir immortel n'est point un droit de l'homme et conséquemment ne saurait être un droit du Parlement. Le Parlement de 1688 aurait aussi bien pu faire un acte qui autorisa ses membres à vivre éternellement que de vouloir faire vivre son autorité jusqu'à la fin des siècles. C'est pourquoi tout ce que l'on peut en dire, c'est que c'est une formule de parole qui ne signifie rien autre chose que des espèces de félicitations que les membres se faisaient les uns aux autres. C'est comme s'ils avaient dit, dans le style oriental de l'Antiquité, « Vive à jamais le Parlement !» Les circonstances du monde changent continuellement, il en est de même des opinions des hommes. Et comme les gouvernements sont pour les vivants et non pas pour les morts, il n'y a que les vivants qui puissent y avoir droit. Ce qui paraît bien et convenable dans un siècle peut paraître mauvais et peu convenable dans un autre. En pareil cas, qui doit décider? Est-ce les vivants ou les morts? Comme il y a près de 100 pages de l'ouvrage de M. Bach qui ne porte que sur ces clauses, il s'ensuivra que si ces clauses elles-mêmes, en tant qu'elles s'arrogent d'une domination usurpée sur la postérité pour toujours, ne sont d'aucune autorité, et sont même nulles par leur nature, le nombre de conséquences qu'il en tire et de déclamations qu'il fonde sur ces bases sont aussi nulles, et c'est là où je m'en tiens. Passons à présent plus particulièrement aux affaires de France. Il semble que l'ouvrage de M. Bach ait été écrit pour servir d'instruction à la nation française. Mais si je puis me servir d'une métaphore, extravagante à la vérité, quoique convenable à l'extravagance de l'auteur, ce sont les ténèbres qui veulent éclairer la lumière. Pendant que j'écris ceci, il se trouve, par hasard devant moi, un projet de déclaration de droit présenté par M. de Lafayette à l'Assemblée nationale le 11 juillet 1789, 3 jours avant la prise de la Bastille. Et je suis frappé du contraste qui se trouve entre les principes de ce dernier et ceux de M. Bach. Au lieu d'avoir recours à de vieilles paperasses et des parchemins vermoulus pour prouver que les droits des vivants sont anéantis, détruits et abdiqués à jamais en faveur de ceux qui n'existent plus, comme l'a fait M. Bach, M. de Lafayette s'adresse au monde vivant et dit avec emphase « Rappelez-vous les sentiments que la nature a gravés dans le cœur de chaque citoyen et qui prennent une nouvelle force lorsqu'ils sont solennellement reconnus par tous les individus. Pour qu'une nation aime la liberté, il suffit qu'elle la connaisse, et pour être libre, il suffit qu'elle le veuille. » Que le terrain sur lequel M. Bach travaille est aride et sec, que ses déclamations et ses arguments, quoique parsemés de fleurs, sont vagues et de peu d'efficacité en comparaison de ses sentiments clairs, précis et qui vont jusqu'à l'âme. Quelque court qu'il soit, ils conduisent à un vaste champ d'idées mâles et généreuses et ne finissent pas, comme les périodes de M. Bach, en ne laissant que de l'harmonie dans les oreilles et rien dans le cœur. Comme j'ai introduit M. de Lafayette sur la scène, je prendrai la liberté d'ajouter une anecdote sur son adresse d'adieu au Congrès de l'Amérique en 1783 et qui me revint à l'esprit lorsque je vis l'attaque fulminante de M. Bach sur la Révolution française. M. de Lafayette passa en Amérique au commencement de la guerre et resta comme volontaire au service des États-Unis jusqu'à la paix. Sa conduite pendant toute cette entreprise est la plus extraordinaire que l'on puisse trouver dans l'histoire d'un jeune homme qui avait à peine 20 ans. Né dans un pays qui est comme le centre de tous les plaisirs, et avec les moyens d'en jouir, combien peu d'hommes auraient voulu, comme lui, changer cette scène brillante pour les déserts et les bois de l'Amérique et passer leur plus belle jeunesse à affronter des dangers de toute espèce. Mais le fait existe. Lorsque la guerre fut terminée et qu'il fut sur le point de prendre congé, il se présenta au Congrès et, dans ses adieux affectionnés, ayant présent à l'esprit la révolution qu'il avait vue, il prononça ces paroles. Puisse ce grand monument, élevé à la liberté, servir de leçon à l'oppresseur et d'exemple à l'opprimé. Quand cette adresse parvint au docteur Franklin, alors en France, il s'adressa au comte de Vergennes pour la faire insérer dans la Gazette de France. Mais il ne put jamais obtenir son consentement. C'est que le comte de Vergennes était un despote chez lui et craignait l'exemple de la révolution de l'Amérique en France, comme certaines personnes craignent à présent l'exemple de la révolution française en Angleterre. Et le tribut des craintes de M. Buck, car c'est ainsi qu'il faut considérer son ouvrage, va de pair avec le refus du comte de Vergennes. Mais revenons plus particulièrement à notre but. Nous avons vu, dit M. Buck, les Français se révolter contre un monarque doux et légitime avec plus de fureur, d'outrage et d'insulte qu'aucun peuple ne l'ait jamais fait contre le plus illégal usurpateur ou le tyran le plus sanguinaire. Voici un exemple, entre mille autres, par lequel M. Buck montre qu'il est tout à fait ignorant de l'origine et des principes de la Révolution de France. Ce ne fut pas contre Louis XVI, mais contre les principes despotiques du gouvernement que la nation se révolta. Ces principes n'avaient point pris naissance sous son règne, mais dans l'origine de l'établissement, il y a plusieurs siècles. Ils étaient trop profondément enracinés, et l'étable d'Augias était trop sale pour qu'on pût la nettoyer sans une révolution complète et universelle. Quand une chose devient nécessaire, il faut s'y livrer de toute son âme ou ne point la tenter. Cette crise était alors arrivée, et il n'y avait point d'autre choix que d'agir avec une vigueur déterminée ou de rester absolument tranquille. On savait que le roi était l'ami de la nation, et cette circonstance fut favorable à l'entreprise. Jamais peut-être aucun homme, élevé dans les principes d'un monarque absolu, ne se trouva moins disposé à exercer ce genre d'autorité que le roi de France actuel. Mais les principes du gouvernement n'en étaient pas moins les mêmes. Le monarque et la monarchie étaient des choses différentes et séparées, et ce fut contre le despotisme de la dernière, et non pas contre la personne ou les principes du premier, que la révolte commença, et la révolution s'est effectuée. M. Buck ne fait point de distinction entre les âmes et les principes. En conséquence, il ne voit pas qu'on peut se révolter contre le despotisme des derniers, quoiqu'il n'y ait aucune accusation de despotisme contre les premiers. La modération naturelle de Louis XVI ne pouvait aucunement changer le despotisme héréditaire de la monarchie. Toutes les tyrannies des règnes précédents pouvaient se renouveler sous ses successeurs. Ce n'était donc pas l'intervalle d'un règne qui pouvait satisfaire la France alors éclairée. Une discontinuation accidentelle de l'exercice du despotisme n'est point l'abolition de ses principes. La première dépend de la vertu de la personne qui a le pouvoir immédiat, l'autre de la vertu et du courage de la nation. En Angleterre, sous Charles Ier et sous Jacques II, la révolte fut contre le despotisme personnel de ces deux rois. Au lieu qu'en France, ce fut contre le despotisme héréditaire du gouvernement établi. Mais ceux qui, comme M. Buck, peuvent abandonner les droits de la postérité pour toujours sur l'autorité d'antiques parchemins ne sont pas propres à juger cette révolution. Elle embrasse un champ trop vaste pour que leur vue puisse s'étendre jusque-là, et elle s'avance avec une force de raison qu'ils ne peuvent atteindre. On peut considérer cette révolution sous différents points de vue. Lorsque le despotisme s'est établi pendant des siècles dans un pays, comme en France, ce n'est point dans la seule personne du roi qu'il réside. Il paraît, à la vérité, que le roi est toute l'autorité, et c'est en son nom qu'elle s'exerce. Mais dans le fait, il n'en est pas ainsi. Chaque bureau, chaque département a son despotisme fondé sur l'usage et la coutume. Chaque place a sa Bastille, et chaque Bastille son despote. Le despotisme héréditaire, résidant dans le principe et dans la personne du roi, se divise et se subdivise en mille et mille formes, jusqu'à ce qu'enfin on l'exerce par procuration. Voilà quelle était la situation de la France, et il n'y a pas moyen d'obtenir justice contre cette sorte de despotisme qui marche à travers un labyrinthe immense de places jusqu'à ce que son origine devienne imperceptible. Il se fortifie en prenant l'apparence de devoir et tyrannise sous prétexte d'obéir. Quand on réfléchit sur la situation où était la France par la nature de son gouvernement, on trouve d'autres causes de révolte que celles qui ont des liaisons immédiates avec la personne et le caractère de Louis XVI. Il y avait, si je puis me servir de cette expression, à réformer en France 1000 despotismes qui s'étaient élevés à l'ombre du despotisme héréditaire de la monarchie et qui étaient tellement enracinés qu'ils en étaient pour ainsi dire indépendants. Il y avait une rivalité de despotisme entre la monarchie, le parlement et le clergé, outre le despotisme féodal qui opérait partiellement et le despotisme ministériel qui agissait partout. Mais M. Burke, en regardant le roi comme le seul objet possible d'une révolte, parle comme si la France était un village dans lequel tout ce qui s'y passait pouvait être connu de son gouverneur et dans lequel il ne pouvait se commettre aucune oppression qu'il ne fût sur le champ en état de redresser. M. Bach aurait pu être toute sa vie à la Bastille, sous Louis XVI comme sous Louis XIV, et il était possible que ni l'un ni l'autre de ces monarques n'eût jamais su qu'il existait un M. Bach. Les principes despotiques du gouvernement étaient les mêmes sous les deux règnes, quoique les caractères des deux princes fussent aussi différents que ceux de la tyrannie et de la bienfaisance.